de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers amis, bonsoir. Voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le président Jokowi espère que toutes les personnes seront vaccinées. L'Indonésie souligne l'importance de la coopération pendant la pandémie lors du forum de l'IORA. Il y a ICA CEPA, les transactions commerciales avec la Corée du Sud sont ciblées à 280 000 milliards rupiah en 2021. Le typhon Yasa ravage les Fidji. La Chine injecte le vaccin COVID-19 pour 50 millions de personnes avant le nouvel an chinois. L'Union européenne lève les restrictions de voyage pour 7 pays. Voici le bulletin complet. Le président Joko Widodo espère que tous les Indonésiens seront vaccinés contre le COVID-19. Le président a déclaré que dans un essai clinique, le gouvernement avait impliqué le Conseil indonésien des Ulema, MUI, pour confirmer le vaccin halal. Le président Jokowi, lors de la distribution de l'aide au fonds de roulement aux micro et petits commerçants au palais présidentiel Bogor, a confirmé vendredi qu'il serait le premier à être vacciné pour s'assurer que le vaccin était sûr à utiliser. Le président Jokowi a ajouté que le vaccin contre le COVID-19 est arrivé en Indonésie. Cependant, l'injection attend toujours l'approbation de l'Agence nationale de contrôle des drogues et des aliments, BPOM. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé à l'importance de renforcer la coopération entre les pays de la région de l'océan Indien pour faire face aux défis mondiaux, en particulier pendant la pandémie COVID-19. Cela a été exprimé par Retno Marsudi lors de la 20e réunion ministérielle du Forum de l'Association des rives de l'océan Indien, IORA, qui s'est tenue virtuellement récemment. La ministre Retno Marsudi, comme indiqué dans une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta, vendredi a déclaré que les pays membres de l'IORA n'avaient d'autre choix que de s'adapter afin de rester pertinents et conformes aux objectifs initiaux de la formation de cette organisation. Retno a mis l'accent sur trois domaines importants pour le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'IORA et les pays partenaires. Premièrement, l'importance d'intensifier les efforts pour lutter contre le COVID-19. Deuxièmement, l'IORA doit reconstruire le secteur de la mer et de la pêche pour récupérer l'économie post-pandémique. Troisièmement, la ministre Retno Marsudi encourage l'océan Indien à rester une zone stable, sûr et pacifique. Le ministère du Commerce vise les transactions commerciales de l'Indonésie avec la Corée du Sud à atteindre 20 milliards de dollars américains, soit environ 280 000 milliards rupiah en 2021. Cet objectif devrait être atteint après la signature de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Corée, ICA-CEPA. Le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle vendredi qu'en 2020, les échanges entre l'Indonésie et la Corée ont chuté à 10,10 milliards de dollars américains. Cependant, avec l'ICA-CEPA, il devrait passer à 20 milliards de dollars américains l'année suivante. Il a expliqué que l'accord ICA-CEPA était l'une des prioritaires étant attendue par l'Indonésie. Étant donné que la Corée du Sud est considérée comme ayant une valeur de produit intérieur brut élevée, accompagnée d'un pouvoir d'achat compétent de la population, on espère qu'elle aura un impact positif sur l'économie indonésienne. Les autorités fijiennes ont annoncé que deux personnes avaient été tuées dans le typhon Yasa. Le féroce typhon Yasa a dévasté certaines parties du pays, a été rétrogradé à un ouragan de catégorie 3, mais a toujours des vitesses allant jusqu'à 195 km par heure. Cité par Radio New Zealand, vendredi, des milliers de personnes ont fui leurs maisons. Les maisons ont été rasées, des lignes électriques coupées et des récoltes détruites après que des vents de 345 km par heure ont frappé les Fidji jeudi heure locale. Plus de 23 000 personnes se trouvent toujours dans les centres d'évacuation. La République populaire de Chine prévoit de vacciner 50 millions de personnes dans des groupes hautement prioritaires contre le coronavirus. Le grand changement intervient immédiatement avant le début de la saison de pointe du Nouvel An chinois au début de l'année prochaine. Un rapport du South China Morning Post a annoncé vendredi que Pékin prévoyait de distribuer 100 millions de doses de vaccins fabriqués par les sociétés chinoises Sinopharm et Sinovac Biotech Limited. Le gouvernement a donné le statut d'utilisation d'urgence à deux candidats vaccins des deux sociétés. Cependant, le vaccin de CanSino Biologics Incorporation a été homologué pour un usage militaire. Les pays de l'Union européenne qui ont fermé leurs frontières depuis mars à cause du COVID-19 ont retiré certains pays de la liste des restrictions de voyage. Le Conseil de l'Europe a publié la dernière version d'une liste de pays recommandés pour lever les restrictions de voyage, mise à jour pour la dernière fois le 22 octobre. Selon la liste, comme le rapporte l'agence de presse Bernama vendredi, la frontière de l'Union européenne sera progressivement ouverte vers l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande. Les frontières seront également ouvertes à la Chine si les pays de l'Union européenne accordent des permis de voyage à leurs citoyens. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix d'Indonésie, Jakarta.
Thank you. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Yogyakarta. La principale zone touristique de la ville de Yogyakarta, Malioboro, ajoute un certain nombre d'installations et infrastructures pour soutenir la mise en œuvre des protocoles de santé pendant la pandémie COVID-19, ainsi que la préparation des vacances de fin d'année. Le chef du bureau de tourisme de la ville de Yogyakarta, Mar Yustion Tonang à Yogyakarta, a déclaré mercredi qu'il existe actuellement une sorte de porte dans chaque zone de Malioboro. Outre les besoins esthétiques de la zone, l'existence de la porte est également utilisée pour les postes de collecte de données et les contrôles de température pour les touristes entrants. Chaque porte est équipée d'un QR code qui doit être scanné par les touristes et vérifier la température. Les nouvelles suivantes sont venues de Makassar dans le sud de Sulawesi. Le maire de la ville de Makassar, Rudy Jamaluddin, a interdit mardi la célébration de Noël et du Nouvel An 2021 et les fêtes dans les hôtels parce qu'ils sont considérés comme susceptibles de provoquer des foules et de violer potentiellement les protocoles de santé. Selon lui, il est important de faire pour que les cas n'augmentent pas en raison des célébrations de Noël et de Nouvel An. Surtout à ce moment, le nombre de cas positifs confirmés continue d'augmenter. Les dernières nouvelles sont venues de Batam, les îles de Riau. Le gouvernement a désigné les deux îles extérieures situées dans la ville de Batam, dans les îles de Riau, comme projet pilote pour accélérer la gestion des actifs des petites îles extérieures. Le secrétaire régional de la ville de Batam, Zifridin Hamid, après avoir participé à la réunion de coordination du groupe de travail sur la réforme agraire, ou GITRA, intégrée dans toute la province des îles de Riau, a déclaré mardi les deux îles pilotes, à savoir l'île de Batu Berhenti et l'île de Pelampung. Les deux îles sont situées dans le quartier Belakang Padang, qui fait face à Singapour. Le chef du bureau de l'Agence nationale foncière des îles de Riau, Askani, a déclaré que la réunion de coordination nationale de GITRA avait décidé, entre autres, d'accélérer l'identification des îles. Son parti espère obtenir un modèle pour résoudre les problèmes dans les zones forestières, la transmigration, les zones aquatiques ainsi que dans les petites îles. Bon, chers amis, c'était la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 décembre. Le 19 décembre est commémoré comme la journée de la défense de l'État. Le président Susilo Bambang Yudhoyono, par le décret présidentiel numéro 28 de 2006, a déclaré le 19 décembre Journée de la Défense nationale. La date était fixée au 19 décembre car le 19 décembre 1948, le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie a été formé par Syafruddin Prawiranegara à Sumatra-Ouest. Ce jour-là, les héros de la nation ont risqué leur âme et leur corps pour défendre l'État unitaire de la République d'Indonésie au milieu du choc de la deuxième agression militaire néerlandaise. Le 19 décembre, la journée Trikora. La journée Trikomando Rakyat, Trikora, est une journée nationale spéciale pour commémorer le conflit de deux ans lancé par l'Indonésie pour intégrer la partie occidentale de la Papouasie à la République d'Indonésie. Le 19 décembre 1961, le président Sukarno a annoncé l'implantation de Trikora sur la place de Yogyakarta. Trikora consiste à abandonner la formation de l'État fantoche papou de fabrication néerlandaise, hisser le rouge et blanc en Irian occidental, la patrie de l'Indonésie, et se préparer à une mobilisation générale pour défendre l'indépendance et l'unité de la patrie et de la nation. Le 19 décembre 1997, la chute de l'avion Silk Air 185 autour de Palembang. Le 19 décembre 1997, un avion commercial de Singapour, Silk Air 185 Boeing 737-300, transportant 97 passagers et 7 membres d'équipage, s'est écrasé dans la rivière Musi à Palembang, Sumatra Sud. Tous les passagers et le personnel de cabine ont été tués. Bientôt, la boîte noire a été trouvée et apportée aux États-Unis. Les autorités américaines ont annoncé que l'accident s'était produit parce que le pilote s'était suicidé. Cependant, l'écriture du regretté professeur Uttario Dhiran, ancien président du Comité national de la sécurité des transports, intitulé Silk Air 185 The Untold Story, contient une autre histoire sur les causes de l'accident. Dhiran, qui a participé à l'enquête, a estimé que l'accident était lié à l'état de l'avion Boeing. Il n'a mentionné aucun signe de suicide. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bersandar di pelukmu, menatap di matamu, apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah tinta yang tulus kepadamu. Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya?
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici mon Indonésie et un petit titre. L'Indonésie vise à économiser 1,8 milliard de dollars américains en devises grâce aux véhicules électriques. Le gouvernement indonésien vise à économiser 1,8 milliard de dollars américains de devises en réduisant les importations de mazout équivalent à 77 000 barils de pétrole par jour grâce à l'utilisation de véhicules à moteur électrique à batterie en 2030. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, lors du lancement public de véhicules électriques motorisés à batterie à Jakarta jeudi dernier, 17 décembre. Il a ajouté que la cible est l'un des programmes du scénario initial de grande conception ou du plan directeur énergétique qui est en cours de rédaction par le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales. Cet objectif peut également réduire les émissions de gaz carbonique CO2 de 1,1 million de tonnes jusqu'en 2030. À la même occasion, le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a souligné que le gouvernement indonésien est très sérieux pour encourager la mise en œuvre de la politique des véhicules électriques à batterie. Cette politique devrait être l'une des étapes stratégiques de la reprise économique au milieu de la pandémie, ainsi qu'un effort pour améliorer la qualité de la santé grâce à un environnement sans pollution. Luhut a également invité tous les ministères, institutions, gouvernements locaux, entreprises publiques et entreprises régionaux à devenir des pionniers dans l'utilisation des véhicules électriques motorisés à batterie, en particulier en tant que véhicules opérationnels, dans le cadre de leurs agences respectives et à remercier les agences qui ont commencé à utiliser des véhicules électriques à batterie comme véhicules opérationnels. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales a lancé l'élaboration d'un site web spécial pour les véhicules électriques à moteur à batterie afin d'accéder aux données et aux informations relatives à ce type de véhicule. En outre, le ministère de l'Intérieur a également mobilisé tous les gouverneurs d'Indonésie pour publier un règlement du gouverneur sur la fourniture d'incitation, la participation au lancement public et l'utilisation de véhicules électriques motorisés à batterie pour les véhicules de bureau, opérationnels et publics. Le ministère des Transports a été le pionnier de l'utilisation de véhicules électriques motorisés à batterie. Depuis mercredi dernier, 16 décembre, les véhicules officiels du ministre des Transports et des fonctionnaires de premier rang au sein du ministère des Transports sont également officiellement passés des carburants fossiles aux voitures électriques. Chers amis, c'était mon Indonésie.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan. Apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, biar kita jalan ke depan, yeah.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, voici le magazine culturel visitant la belle cascade La Popu à Sumbawes, Nusa Tenggara Est. En plus d'être célèbre pour sa beauté naturelle, l'île Sumba à Nusa Tenggara Est possède également d'autres beautés naturelles sous la forme d'une cascade qui est encore très naturelle. L'existence d'une cascade appelée la cascade La Popu, située dans le village La Popu dans le district Wanokaka, dans la région du parc national Manupu Tanah Daru, est comme une source et un paradis caché sous le soleil chaud et l'air sec à Sumbawes. La cascade La Popu est différente des autres cascades et la démarche avant d'atteindre la piscine. Cette cascade mesure environ 90 mètres de haut. La cascade La Popu est une destination obligatoire pour les visiteurs qui voyagent par voie terrestre pour explorer l'exotisme de l'île Sumba, d'ouest en est. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent visiter cette cascade La Popu, vous devez prendre en compte le temps, car le meilleur moment pour visiter cette cascade est pendant la saison chasse, qui se situe autour de mai et octobre.
Pendant ces mois, le débit d'eau n'est pas trop grand. Il convient donc de l'apprécier. Une fois arrivé à l'entrée de la cascade, les visiteurs doivent s'inscrire au poste de garde au parc national en payant un ticket d'entrée de 5000 roupias. Ici, il y a des toilettes et un vestiaire. Pour atteindre l'emplacement de la cascade, les visiteurs doivent encore marcher environ 500 mètres le long des rives de la rivière La Popou avec un terrain rocheux et une route légèrement en descente. Sur le chemin, vous passerez également un pont en bois assez fragile et ne pouvant être franchi que par deux personnes maximum. La beauté de la cascade La Popou est en effet extraordinaire. L'eau est très claire et le bleu Tosca ajoute à la beauté de ce site touristique. Outre la beauté de la cascade La Popou et de ses environs, vous pouvez également ressentir le flux frais de la cascade en nageant dans la piscine naturelle formée de la cascade La Popou. Vous pouvez louer un véhicule pour vous rendre à la cascade La Popou, car il n'y a pas de transport public pour vous rendre à cette cascade. La distance entre Waikabubak, capitale de Sumbawes, et la cascade La Popou est d'environ 30 km. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Kuhampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Kuhampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa merindukanmu. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oh, intuisiku selalu mengarah kepadamu. Tapi tak jua kau hiraukan aku. selalu mengarah kepadamu. Tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku. Tapi tak jua kau hiraukan aku.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en beau titre « Among Raga, bâtiment de quarantaine durable ». La pandémie de COVID-19 a changé le mode de vie de chacun, donnant lieu à des innovations dans divers domaines. Cette fois, les étudiants de l'Institut technologique 10 novembre ITS ont initié une conception de bâtiment avec un concept idéal de quarantaine pendant la pandémie, tout en étant durable sous le nom de Among Raga. Among Raga est un bâtiment de 42 étages conçu par l'équipe d'étudiants ITS. Among Raga est pris du javanais, ce qui signifie « prendre soin du corps », selon le concept de quarantaine utilisé. La conception appliquée est le reflet de la sagesse locale de la société sud-est asiatique, à savoir la coopération mutuelle. Selon le chef d'équipe Nathaniel Christopher, Among Raga a brisé la stigmatisation de la société envers la quarantaine qui semblait ennuyeuse, emprisonnée et improductif. Pourtant, le concept d'espace ouvert, ce bâtiment soutiendra certainement le bien-être des résidents, en particulier ceux qui sont réactifs ou positifs pour COVID-19. Le bâtiment de quarantaine est conçu avec des systèmes et des installations adéquates, non seulement pour empêcher la propagation, mais aussi pour les effets psychologiques. Among Raga, en plus d'être un lieu résidentiel, il est également équipé d'installations de soins intensifs pour les résidents qui se révèlent réactifs ou même positifs pour COVID-19. Le système de ventilation de l'unité de soins intensifs s'appliquera à une pièce à basse pression afin que les courants d'air puissent être contrôlés pour rester à l'écart des endroits où le virus est susceptible de se propager. Outre son nom, la conception de ce bâtiment qui est une double couche de peau sur la façade a été tirée du fruit qui circule largement en Asie du Sud-Est, à savoir le fruit salak. Cette conception est utile pour maximiser l'utilisation de la lumière, du soleil et de la circulation naturelle du vent. Dans la couche extérieure, des panneaux solaires sont installés pour produire de l'énergie pour le bâtiment, ainsi qu'un coupe-vent et fournir de l'ombre aux occupants du bâtiment. Ce système de panneaux solaires a d'autres utilisations. Lorsqu'il pleut, les panneaux solaires tournent hydrauliquement afin de pouvoir capter l'eau de pluie, la collecter et l'utiliser pour l'irrigation des cultures. Le design Among Raga a également remporté la troisième place au premier concours international d'étudiants sur la conception des bâtiments de grande hauteur organisé par Université Technologie Petronas, Malaisie. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Dirimu hadir dan
akan ku ingat.
Cinta kita yang kan ku ingat.
Cinta kita yang kan ku ingat selalu.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici le magazine musical de Voice of Indonesia. Dans cette édition, nous présentons une chanson de Kroncong intitulée « Biarkan malam gelap berlalu » ou en français « Laisse la nuit noire passer ». La chanson de Budiman Bijay décrit la lutte d'une personne pour sortir de la tristesse. Ce n'est pas facile de croire à nouveau en la personne qui l'a blessée. Mais même si, elle ne voulait pas sombrer dans la tristesse et essayer de se relever. L'accompagnement de la musique de flûte dans cette chanson est capable de décrire une tristesse très profonde. La chanson dont le titre est « Biarkan malam gelap berlalu » ou en français « Laisse la nuit noire passer » donne un message pour que nous soyons prudents et que nous ne blessions pas facilement les autres autour de nous. Bon, chers auditeurs, voici Teti Supangat avec la chanson de Kroncong intitulée « Biarkan malam gelap berlalu » ou en français « Laisse la nuit noire passer ». Bonne écoute.
Di ujung senja kau datang cuma seperti hari-hari yang lalu. Sebelum kau sakiti hatiku, dunia tampak sama redunya matahari. Kau ungkap cerita lama lagi, tak mungkin bagiku kan percaya. Bujuk dan rayu dalam dada. Namun hatiku terlanjur luka karena engkau jua. Bisa kau renggut hati yang lama. Hari luka
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.